divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la Grande Loge de France. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Au micro, Perry Willet. Et là, nous commençons un nouveau cycle d'émissions qui va s'appuyer sur deux axes principaux, la communication et la culture. Et pour animer cette première émission, je suis accompagné de Max Aubrin. Bonjour Max.
Bonjour.
Grand officier à la culture et de Alain Pigeot.
Bonjour
Alain. Grand officier à la communication. Alors nous allons commencer, si vous voulez bien, par la communication. Pourquoi un grand officier à la communication? Alors le premier vocable grand officier, évidemment, est peut-être de notre jargon d'obédience, mais communication, on parle à tout le monde. On a déjà communiqué par le passé à la Grande Loge de France. Qu'y a-t-il de nouveau? Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous allez ajouter à ce qui existait déjà?
Alors ce que l'on va ajouter à la communication, on va faire des efforts pour améliorer cette communication. Et cette année, notre convent, qui est en fait l'Assemblée Générale de la Grande Loge de France, a décidé effectivement de créer de nouvelles responsabilités, l'une à la culture, l'autre à la communication. Et le constat que nous avons fait, c'est que le monde maçonnique est un monde qui est mal compris par tous ceux qui sont extérieurs à ce monde. L'image de la franc-maçonnerie, c'est très souvent des articles du style « Les réseaux des francs-maçons », on va voir d'ailleurs dans les mois qui viennent, des articles très probablement sur les réseaux des francs-maçons autour des candidats aux présidentielles. On voit régulièrement des articles qui ont des images négatives. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que nous sommes des institutions, si vous me permettez le terme, qui sont anciennes. On fait appel à la tradition. La Grande Loge de France, on nous dit 1728. Du coup, on a une image qui est un peu vieillotte. Je suis peut-être un peu brutal en le disant, mais c'est ce qu'on nous dit en tout cas. Et puis, il y a un troisième constat que je ne devrais pas dire dans le cadre de cette émission, mais je vais le dire. Moyenne d'âge, 59 ans au sein de notre obédience. Et je dis d'autant plus facilement que c'est pareil dans les autres obédiences. Alors, aujourd'hui, on a fait le constat, il faut qu'on change notre image. Et puis, il faut aussi qu'on soit en mesure d'expliquer au monde profane ce qu'est l'engagement maçonnique.
Mais vous allez communiquer comment ? Avec d'autres médias ?
On va communiquer avec les médias, on va ouvrir les portes des temples, on va ouvrir les portes de la Grande Loge de France. Nous avons plein de choses à faire. Nous avons très probablement un retard à combler. Et même, je vais vous faire une confidence, on a décidé d'investir les réseaux sociaux. Dire ça d'un franc-maçon, on va aller sur Facebook, c'est une révolution.
Oui. Bon, le mot réseau, certains vont rire sur ce mot-là. Mais vous allez communiquer quoi ?
Eh bien, on va communiquer.
On parle du secret maçonnique, alors.
Alors, le secret maçonnique, c'est un faux problème. Le secret maçonnique, vous allez dans une librairie, vous achetez des bouquins, vous avez la description précise de tous les rituels, de ce que l'on fait dans nos temples. Donc, le secret maçonnique, c'est un secret intérieur. C'est ce que l'on vit lorsqu'on est initié. Mais il n'en reste pas moins que ce qu'il faut communiquer, c'est le contenu de notre engagement. Et ce contenu, c'est l'humanisme dans le cadre d'une tradition. C'est un certain nombre de valeurs que nous défendons, et ce sont des valeurs parfaitement contemporaines, quand on voit notamment les problèmes que nous rencontrons dans notre société.
Ah, c'est dans cet esprit-là que je vois qu'avant-hier, il y avait une conférence publique faite par un ancien grand maître, Alain Noël Dubar, qui le thème est « Franc-maçonnerie sans clichés ». Et puis, jeudi prochain, un autre ancien grand maître, Alain Grézel, lui, parle de la franc-maçonnerie expliquée aux non-maçons. Donc, tous ces thèmes-là concourent dans cette volonté.
Tous ces thèmes-là sont effectivement d'actualité au sens que l'on veut s'expliquer et démontrer à ceux qui nous écoutent, à ceux qui s'intéressent à nous, que nous ne sommes pas ce que l'on pense, on n'est pas des hommes qui se cachent, qui ne veulent pas faire part de leur expérience. Bien au contraire, nous sommes là pour dialoguer.
Alors, merci Alain, je vais donner un peu la parole aussi à Max Aubrin pour nous parler de la culture. Alors c'est pareil, existe-t-il une culture spécifiquement maçonnique? Qu'y a-t-il de nouveau? Qu'allez-vous nous montrer ou nous démontrer dans le paysage maçonnique pour donner la spécificité à la Grande Loge de France sur cet aspect?
Alors il y a bien une culture maçonnique, mais je pense que c'est très complémentaire de ce que vient de dire Alain, puisque la culture maçonnique, ce sont des lieux, ce sont des écrits, ce sont des objets, et puis c'est aussi un regard, le regard des francs-maçons sur le monde. Et c'est ce que nous allons essayer d'extérioriser, à la fois par les structures qui existent déjà, parce que on ne révolutionne pas. C'est pas parce que tout d'un coup il y a un grand officier à la culture que les objets vont changer de place. Ils vont changer probablement dans le point de vue qu'on va avoir de ces objets. C'est-à-dire qu'on va d'abord essayer de les réunir, on va essayer de les mettre en valeur, et on va essayer à travers ces objets et ces livres, ou voir ces lieux, de présenter la place que le franc-maçon prend dans la culture générale, parce que à chaque fois qu'on rencontre un franc-maçon, même s'il ne dit pas qu'il est franc-maçon, son regard est un regard de franc-maçon, avec un point de vue qui est un point de vue très différent, parce qu'il a appris ce point de vue dans un lieu particulier qui est sa loge, en regardant des objets très différents, alors que ces objets, tout le monde les connaît.
Mais rassurez-moi, vous allez rendre tout ce patrimoine visible aux non-maçons. C'est pas bien sûr, un égocentrisme permanent.
Pas du tout, pas du tout. Il existe au sein de la Grande Loge de France une structure qu'on appelle le MAB. Le MAB, c'est génial.
Qu'est-ce que ça veut dire, le MAB ?
Musée, archives, bibliothèque. Au départ, ça voulait dire ça. Mais je pense que c'est génial, parce que en présentant sous cet aspect-là tout ce qui pouvait appartenir à la culture patrimoniale de la Grande Loge de France, eh bien on recréait un muséion, c'est-à-dire qu'on recréait ce que Ptolémée Sotère avait fait à Alexandrie. Et nous avons...
Rien que ça.
Oui, parce que c'est un concept. À Alexandrie, il y avait des livres sous la forme de l'époque qu'on connaît, il y avait des objets, il y avait des animaux, on oublie complètement qu'il y avait des animaux, et il y avait surtout un réfectoire, il y avait un lieu de rencontre où on et tous les jours, ou presque, se passait un genre de colloque. Or, nos loges sont des espaces de colloque.
Alors, je reviens sur la communication, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la moyenne d'âge assez élevée des francs-maçons. Je pense que une des politiques du grand maître, c'est de se rapprocher des jeunes ou d'intéresser les jeunes. Alors, je rappelle quand même que si la moyenne d'âge est de 59 ans, avez-vous dit, oui. C'est parce qu'il y a de nombreux frères comme nous, d'un certain âge, qui sont toujours pas déçus par la chose.
Je ne parlais pas de vous, bien évidemment, même si la moyenne est sérieusement mise en cause par vous. Mais il n'en reste pas moins qu'il faut effectivement s'ouvrir à la jeunesse. Mais cette jeunesse, il faut la voir d'une manière globale, c'est-à-dire qu'il faut passer un message de jeunesse. S'intéresser à la jeunesse, c'est faire évoluer notre message. Ça va pas être totalement simple, parce que je viens d'écouter avec intérêt les propos de Max Aubrin pour la culture. Il va falloir conjuguer Alexandrie avec Facebook. Mmh. Ça va être une mission qui va être très intéressante. C'est-à-dire que nous avons à montrer ce que nous sommes, effectivement, dans les objets, dans les idées, dans les hommes. Et je prends un exemple, Journée du patrimoine, rue Puteaux, le siège de la Grande Loge de France. 2500 visiteurs. Pourquoi sont-ils venus ? Parce qu'ils sont intéressés à découvrir ce qu'est un temple maçonnique. Eh bien, ce sont des idées à développer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on attire le monde profane, sans obligation, mais nous avons des messages importants à faire passer.
Et pour la culture, vous allez avoir le même souci.
On partage
de
la même
parler
chose.
De la tradition, puisque nous sommes, c'est écrit sur notre site, une démarche de tradition, mais typiquement au cœur des enjeux contemporains. Comment marier cette culture avec le monde contemporain d'aujourd'hui pour interpeller les jeunes et les moins jeunes ?
Quand on regarde la maçonnerie d'une manière générale, et la Grande Loge de France en particulier, on voit que les lieux sont souvent des lieux de tradition. Les temples de la Grande Loge de France, certains, portent la culture de 100 ans, 150 ans, 200 ans, comme à Rochefort, comme à Poitiers, et où, quelque part, ces objets que sont les temples parlent au monde contemporain, puisque c'est vrai pour Rochefort, il est inscrit au patrimoine de l'État. Donc, quelque part, ça veut dire qu'on joue toujours un rôle dans le monde d'aujourd'hui, puisqu'on s'intéresse à l'épaisseur de notre culture, de ce que l'on représente, de ce que représentent des lieux, mais de ce que représentent aussi les objets. Toutes les ventes d'objets sur, dans des ventes sur offre, souvent, font des exemples des objets maçonniques qui ont une valeur et qui ne sont pas systématiquement expliqués. Nous possédons ces objets. Nous travaillons toujours avec ces objets. C'est ce partage qu'il va falloir qu'on fasse.
Et on dit aussi que le MAB, Musée Archives Bibliothèque, la bibliothèque est ouverte aux chercheurs. Il y a donc des livres très anciens, des livres qui sont peut-être indispensables pour quelques chercheurs pour soutenir leur thèse.
À la bibliothèque, il y a des livres, évidemment. Mais on a aussi un fonds tout à fait intéressant d'archives, en particulier des archives qui nous ont été rendues récemment. Ces archives qui nous avaient été enlevées à l'époque où la France était envahie par l'Allemagne. Donc quelque part, ces objets qu'on appelle les archives, qu'on appelle les archives russes, nous sont revenus avec un formidable capital de connaissances sur notre histoire, notre profession, et aussi l'histoire des autres. Parce que c'est en échangeant que nous obtiendrons cette reconnaissance moderne.
Ah oui. Mais justement, la frontière entre la culture, la communication, la tradition, les préoccupations des jeunes, Alain, vous vouliez parler d'un événement qui aura lieu, je crois, à Moulins.
Oui, le 19 novembre, une conférence débat va être organisée. Et le thème de cette conférence débat, c'est « Quel message d'espoir pour la jeunesse du 21e siècle ?» Et là, dans le cadre de cette conférence, on regroupe des représentants de tous les cultes. Toutes les religions sont regroupées dans le cadre de cette initiative. Et c'est très contemporain. La tradition, de temps en temps, on voit ça comme étant quelque chose qui est recouvert de poussière. Et je serais amené à dire que la communication, ça va être d'enlever cette apparente poussière pour découvrir que la franc-maçonnerie est un monde d'aujourd'hui qui répond à un certain nombre de problèmes de notre monde contemporain, de notre société, et parfois même au niveau de problèmes douloureux que nous vivons depuis quelques mois.
Alors, je comprends bien, il peut y avoir, j'ai vu qu'il y avait les représentants du culte musulman, hébraïque, protestant, bouddhiste, catholique, mais ces regards croisés, on a déjà eu cette expérience en Grande Loge de France, mais est-ce que ça peut pas être confusant par le public? Quelle est la position de la Grande Loge de France par rapport à ces croyances?
Ah non, mais la Grande Loge de France n'a pas l'intention et n'a pas pour finalité de s'intégrer dans ces différents cultes, pas du tout. Nous sommes un lieu de rencontre. On va permettre à un certain nombre de représentants de religions de discuter entre eux, devant nous, et chacun va apporter son message, et ce seront des messages d'espoir, j'en suis convaincu.
Dans le même registre, alors complètement contemporain, je vois que nous organisons le 20 octobre Rue Puteaux à Paris. Là, votre conférence est à Moulins, hein, c'est ça? Et elle aura lieu le 19 novembre. Donc le lendemain, mais Rue Puteaux à Paris, dans le cadre de la conférence de la Commission des droits de l'homme et du citoyen, nous recevons Madame Corinne Lepage, qui va nous parler de l'urgence de reconnaître la déclaration des droits et des devoirs de l'humanité. On est entre culture et communication, là, à nouveau.
On est entre culture, communication, affirmation de nos principes. Les droits de l'homme font partie du patrimoine de la franc-maçonnerie. Il est normal que nous en parlions, il est normal que nous soyons là pour les défendre.
La culture, c'est d'en faire l'histoire. La culture, c'est de regarder comment s'inscrivent les droits de l'homme dans une évolution. Et nous avons participé, en tant que franc-maçons, non seulement à l'élaboration des droits de l'homme, mais d'une manière culturelle, à l'histoire des mentalités. Puisque, au départ, on est avant la Révolution française. Et quelque part aussi, viennent s'inscrire dans nos gènes les Anglais, les Écossais, les démarches des grands humanistes qui sont du XVIe, du XVIIe siècle, et on va essayer d'en extraire une substantifique moelle. C'est ce qui fait aussi la source de notre culture.
Alors, autant la communication, on va avoir le résultat de vos actions, Alain, par les différents
oui,
médias.
J'espère, en tout cas, oui.
Mais alors, Max, est-ce que, au niveau de la culture, est-ce que, par exemple, il va y avoir quelques publications? Est-ce qu'il y a une édition qui serait faite au sein de la Grande Loge de France?
On a
des résumés?
Oui, on a déjà deux collections dans lesquelles la première, c'était les Mémoires de la Grande Loge de France. Il y a déjà deux volumes de ces mémoires. Et puis, il y a un cahier, le numéro un des cahiers de la Grande Loge de France, où c'est les résultats de la loge de recherche qui ont été mis dedans sur les sources des archives pour expliquer notre Grande Loge. Alors, quelque part, on va continuer, mais il nous faut un ou deux catalogues du musée, des objets qui viendront épaissir le regard que nous avons sur nos propres loges et le regard qu'on peut donner à ceux qui ne connaissent pas ou qui voient avec curiosité ces objets un peu insolites se vendre. Nous, on a ces objets, on en a des collections comme un musée, et un musée, c'est la part culturelle de la Grande Loge de France.
Ça se passera ailleurs que rue Puteaux à Paris. Je suppose que vous allez faire des petites expositions itinérantes.
On va essayer de faire des modèles d'exposition, de manière à le distribuer dans d'autres endroits, y compris des loges, des petites loges.
Merci beaucoup Max, merci beaucoup Alain. Eh bien, nous allons vous donner rendez-vous pour notre prochaine émission qui aura lieu le 20 novembre. Alain Pigeot et moi, nous allons recevoir un nouvel invité, toujours autour de ces thématiques, mais que nous élargirons pour satisfaire un public toujours de plus en plus nombreux. Je rappelle, pour que vous puissiez vous inscrire sur les différentes conférences qui ont été évoquées, qu'il faut aller sur le site www.gldf.org. Et dans événements, vous pourrez là cliquer et vous inscrire préalablement, parce qu'il y a toujours beaucoup de monde à ces conférences, et donc ce serait dommage que vous ne puissiez pas y assister. Merci à toutes, merci à tous, et rendez-vous donc au 20 novembre.